de l'Apocalypse. Nous irons chapitre 1er pour lire les versets 4 à 6. Apocalypse de Jean, chapitre 1er, versets 4 à 6. Le titre que j'ai donné à ce message est un peu technique, alors je donnerai un autre titre, un peu plus de vulgarisation. Et c'est vraiment un message, me semble-t-il, vraiment important. C'est un enseignement que je vais apporter, donc il y aura un côté un peu formel, mais à travers ce message, j'aimerais tellement ouvrir votre esprit, votre cœur sur la réalité, l'étendue du projet de Dieu concernant la Nouvelle Alliance. Et ce matin, nous allons parler des trois offices universels de la Nouvelle Alliance. Ça, c'est le titre technique. Le titre vulgarisé, c'est « Dieu a fait de nous des prêtres, des prophètes et des princes administrateurs ». Lisons dans le livre de l'Apocalypse. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Depuis Jean Calvin, c'est-à-dire la Réforme au XVIe siècle, les théologiens parlent des trois offices de Jésus. Jésus est roi. Le texte le dit. Et le psaume 2 disait déjà qu'il est le roi loin sur la montagne de Sion. Jésus est prophète. C'est de lui dont il est question déjà dans Deutéronome 18, verset 18, où il est écrit « Je leur susciterai un prophète comme toi ». Et Jésus est grand prêtre. Psaume 110, « Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek ». Voilà donc les trois offices messianiques de Jésus. Il est roi, il est prophète et il est grand prêtre. Et cette distinction nous renvoie directement à l'Ancien Testament où ces trois offices étaient les fondements de la nation d'Israël. Le roi était le chef politique, le grand prêtre, le chef religieux. Le prophète n'était pas à proprement parler un chef, mais il opérait souvent comme un pouvoir d'équilibre vis-à-vis des deux autres, voire même un contre-pouvoir, car il était la voix de Dieu qui pouvait intervenir à tout moment dans les affaires civiles, militaires ou religieuses d'Israël. Et vous savez, les prophètes n'avaient pas peur de reprendre les rois quand c'était nécessaire ou les sacrificateurs. Il y avait donc un roi et avant des juges, il y avait des prophètes et il y avait des grands prêtres et des prêtres en Israël. Et chacun de ces offices avait évidemment une dimension sacrée parce qu'il n'était réservé qu'à ceux moins spécifiquement en vue de l'accomplissement de leur mission. On ne s'établissait pas soi-même prêtre, prophète ou roi. Si vous connaissez les Écritures, c'est ce qui s'est passé dans le royaume du Nord, les 10 tribus d'Israël, à partir de 1 Roi chapitre 13, où qui le voulait pouvait devenir prêtre, où on s'établissait prophète, et on finit par se dire que tout le monde pouvait être aussi roi à son tour, et tout ça a fini par une grande cacophonie dans ces 10 tribus du royaume du Nord d'Israël. Non, on ne s'établit pas soi-même ni prophète, ni roi, ni sacrificateur, c'était dans l'Ancienne Alliance. Cependant, tout a changé avec Jésus et la Nouvelle Alliance. Car depuis notre Seigneur, qui est pleinement roi, prêtre ou prophète, eh bien, ses offices ne sont plus réservés à quelques-uns en raison d'une élection particulière ou d'une lignée spéciale, mais ces trois offices sont devenus universels, accessibles à tous les croyants, nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Et ils ne sont pas accessibles par des diplômes ou par la volonté d'hommes ou d'églises, mais ils sont accessibles par la volonté de Dieu à l'égard de chacun d'entre nous. En Jésus, Dieu nous a oints et a fait de nous des princes, des prêtres et des prophètes. C'est de cette triple universalité dont je voudrais parler avec vous. Et à travers cela, vous amenez à réaliser quelle est la maturité du projet de Dieu à l'égard de son Église. Je vais vous montrer aussi que ce projet est tellement grand qu'il a fallu attendre quasiment le XXe siècle pour commencer à le voir se manifester. Mais qu'encore aujourd'hui, il y a bien des églises et même des chrétiens qui ne vivent pas pleinement ce que le Seigneur voudrait les amener à vivre. Alors d'abord, on va parler de ces trois offices pour comprendre ce qu'ils sont un peu plus en détail. Et je vais reprendre la manière dont Calvin parlait des choses. Et d'abord, il considérait lui le prophète. Alors je vous ai souvent dit que le prophète, c'est la voix de Dieu vers les hommes. Comme le dit l'apôtre Pierre, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'était déjà en eux l'Esprit de Christ qui les animait et les amenait à sonder le cœur de Dieu pour y découvrir son projet de salut. Des prophètes, il y en a eu beaucoup. De Moïse à Samuel, à Élie et jusqu'à celui qui est venu, Jean-Baptiste. Mais il est un prophète à part. Celui qu'on appelle le prophète. Deutéronome 18:15, je susciterai du milieu de toi, dans tes très frères, un prophète comme moi et vous l'écouterez. Alors, lorsque Jean-Baptiste apparut, on vint lui poser la question depuis Jérusalem, es-tu le prophète? Et Jean-Baptiste répondit, non, je ne le suis pas. Jean-Baptiste était la voix qui annonçait la venue du Seigneur. Et puis Jésus parut. Et Jean rendit témoignage, oui, j'ai vu l'Esprit Saint descendre sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Et Jésus fut oint de l'Esprit du Seigneur en toute plénitude et sans mesure. Et dès lors, sans cesse, il ne cessa d'annoncer, le message de Dieu, c'est-à-dire l'évangile de la grâce et de la vérité. Et comme le dit l'Épître aux Hébreux, il est celui par qui Dieu parle dans les derniers temps. Il est le prophète du Seigneur. Et durant ces trois années de ministère public, Jésus a été le prophète. Il a accompli son office prophétique. Il est écrit qu'il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume, et il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Matthieu 4, 23. Et quand il dira à ses apôtres, mais qui dit-on que je suis? Les apôtres répondront, mais pour certains tu es Jean-Baptiste, pour d'autres tu es Jérémie, pour d'autres tu es Élie, ou tu es l'un des prophètes, parce que tout le peuple le considérait comme le prophète. Mais comme pour les prophètes qui avaient précédé Jésus, il fut rejeté par les chefs et il mourut comme un prophète, c'est-à-dire d'une mort violente. Cependant, à côté de la promesse de la venue du prophète, en existait une autre, annoncée par le prophète Joël, celle de la Pentecôte et du prophétisme universel. Joël l'a écrit, chapitre 2, verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions, et même vos serviteurs et vos servantes prophétiseront. » Jean-Baptiste l'a dit, il vient celui qui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et celui-là, c'était Jésus, le prophète. Et avant de repartir vers son Père, il donna ce dernier ordre à ses disciples. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. 10 jours plus tard, le Saint-Esprit descendit au milieu des 120 réunis dans la chambre haute à Jérusalem. Paul l'a écrit dans sa première aux Corinthiens, chapitre 14, vous pouvez tous prophétiser. La venue du Saint-Esprit au milieu de l'Église a fait de ses enfants des prophètes. Nous sommes devenus les porte-paroles, les voix de Dieu parmi les hommes. En répandant son esprit sur nous, Dieu a fait de nous un peuple de c'est ce que Moïse, déjà en son temps, espérait de la part de Dieu. Alors que l'Esprit du Seigneur était répandu sur les 70 anciens d'Israël et qu'eux aussi commençaient à prophétiser, certains sont venus voir Moïse en disant, mais arrête-les, c'est toi qui prophétises. Et là, Moïse va dire, non, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et bien des siècles plus tard, au jour de la Pentecôte, l'espérance et la prière de Moïse s'est accomplie. Oui, par le Saint-Esprit, nous sommes tous des prophètes. Remplis de l'Esprit du Seigneur, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, équipés des dons de l'Esprit selon sa volonté. Nous sommes envoyés dans ce monde pour proclamer sa parole et pour accomplir ses œuvres. Oui, je crois dans le prophétisme universel. Oui, je crois que Dieu a donné la parole à son peuple. Le second office messianique que nous considérons est celui de prêtre. Le ministère de grand prêtre plonge ses racines dans l'Ancien Testament, où il est écrit que Dieu choisit une famille parmi une tribu, celle des Lévites, et cette famille, c'était celle d'Aaron. Et il accorda à cette famille l'exclusivité du sacerdoce. Qu'est-ce que c'est que la prêtrise ? La définition qu'en donne la Bible est la suivante. Il est écrit que tout prêtre, pris du milieu des hommes, est établi par les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Et à titre de simplification, je vous ai souvent dit que si le prophète est la voix de Dieu vers les hommes, les prêtres sont la voix des hommes vers Dieu. Autrement dit, le prêtre était un médiateur de l'alliance entre Dieu et le peuple. Et notamment, il avait charge de présenter le sang des animaux offerts en sacrifice pour le pardon des péchés. C'est lui qui portait le sang dans la présence de Dieu. Jésus n'est pas un descendant d'Aaron. Et pourtant, il a été élevé à cette position. Et il est devenu grand prêtre d'une alliance plus excellente, fondé non sur le sang des animaux, mais sur son propre sang, comme Jean l'avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et d'après Hébreux 7, nous savons que Jésus est sacrificateur, non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon un autre ordre, celui de Melchisédek, qui est sans commencement, ni fin, parfait et intransmissible, il est sacrificateur pour toujours. Ce n'est pas par la volonté d'un homme, par la volonté d'une église, par la volonté d'un peuple que Jésus est devenu grand prêtre de cette alliance, mais par celle de Dieu, son Père. Ça ne s'arrête pas là. Jésus est le prophète, et Dieu a fait de nous en Jésus des prophètes universels. Jésus est le grand prêtre, et Dieu, en Jésus, fait de nous, à notre tour, des prêtres. C'est ce que nous avons lu, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, écrit, il a fait de nous un sacerdoce royal. Alors ce n'est pas un sacrilège de dire, nous sommes des prêtres. Et vous pouvez le dire ce matin, je suis un prêtre dans la maison de Dieu. Dites-le. Je suis un prêtre. Même si vous n'avez pas l'habit qui devrait aller avec dans l'imagerie des gens, vous êtes prêtre et prêtresse dans la maison du Seigneur. Ça nous fait bizarre de dire ça, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Allez, j'emploie le verbe, parce qu'on a volé cette dignité au peuple de Dieu et certains se la sont accaparés. Et nous sommes tous des prêtres en Jésus-Christ. À cause de cette dignité, nous pouvons librement entrer dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qui a été tracée au travers du corps de Jésus-Christ. Et dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure, écrit la Bible, nous pouvons nous approcher du trône de Dieu. Parce que c'est ça le privilège du prêtre, n'est-ce pas, c'est de pouvoir s'approcher de Dieu. Aujourd'hui, il n'est pas simplement question que d'un parmi tous qui peut le faire, ou de quelques-uns. Non, tout le peuple de Dieu peut s'approcher de Dieu. La route a été ouverte, les obstacles ont été levés. Alors oui, je crois dans le sacerdoce universel. Dieu a fait de nous des prophètes, Dieu a fait de nous des prêtres. Enfin, le dernier office, celui de roi. Jésus est notre roi. Il est écrit ici qu'il est le prince des rois de la terre. Il est le prince du salut qui a été élevé à cette dignité par Dieu, par les choses qu'il a souffertes. Nous l'avons chanté, il est le roi serviteur. Aujourd'hui couronné de gloire dans les lieux célestes. Les hommes l'ont couronné d'épines. Le trône que nous lui avons dressé est une croix. Les hommages que nous lui avons apportés n'étaient que des blasphèmes. Mais Dieu l'a élevé et il l'a fait asseoir à sa droite sur le trône de sa puissance. Et comme Pierre le dit, Dieu a établi Jésus comme Seigneur et Christ. Et il a tout mis sous ses pieds afin que tout genou fléchisse devant lui et confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu notre Père. Amen. Jésus notre roi. Et dans sa grâce, nous qui étions étrangers, nous qui étions étrangers aux promesses de Dieu, nous qui étions sans droit de citoyenneté dans la maison de Dieu, non seulement Dieu a fait de nous des gens de sa famille, mais il nous a aussi élevés à la dignité d'héritier, de co-héritier au même rang que Christ. Et il nous a fait asseoir en Jésus, où est assis Jésus, à la droite de Dieu. Quelle est donc la position de celui qui est à la droite de Dieu? C'est le prince. Et si nous sommes assis en Jésus à la position du prince, c'est que Dieu nous considère comme des princes et des princesses dans sa maison. N'est-ce pas merveilleux? Nous sommes des princes dans la maison, là-haut, dans le ciel, dans le cœur de Dieu. Et si on doit considérer l'intérêt de cet office princier dans cette vie, je dirais qu'il est question aussi d'administration et donc de service. Vous savez comment Jésus, dès son enfance, avait à cœur les affaires du royaume de son Père. Eh bien, nous aussi, nous avons à cœur les affaires du royaume de Dieu. Nous sommes les administrateurs des affaires du royaume de Dieu sur cette terre. L'apôtre Pierre écrit que Dieu a fait de nous des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Dispensateur, un mot plus moderne, c'est administrateur, gestionnaire, manager. Voilà ce que Dieu a fait de nous. Alors nous avons tous reçu au moins un don. C'est vrai, certains ont reçu des dons pour la prédication de la parole, le gouvernement d'église, Éphésiens 4.11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais le ministère dans la maison de Dieu ne s'arrête pas là. Nous l'avons étudié dans Romains 12, il est question d'autres dons, des dons de diaconat, des dons de service, de fonctionnement dans le corps de Christ, des dons d'exhortation, de présidence, de libéralité, d'assistance, de prophétie. Nous avons tous une mission à remplir. Pour certains, ce sera à l'intérieur même du corps de Christ dans l'Église. Et pour d'autres, ce sera dans le monde en tant que gestionnaire des affaires du royaume de Dieu. Je crois dans la prêtrise universelle. Je crois dans le prophétisme universel. Et je crois dans le ministère universel. Par la puissance du Saint-Esprit en Jésus, Dieu a fait de nous ses disciples d'une manière universelle, des prophètes, des princes, des prêtres et des princes administrateurs du royaume. En tant que prêtres, nous pouvons librement nous approcher de Dieu pour le servir. En tant que prophètes, nous sommes ses porte-paroles près des hommes. Et en tant que prince administrateur, nous nous occupons des affaires de son royaume selon la part qu'il nous confie. Ce sont là les bénéfices de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Voilà le projet de Dieu. Voilà ce que Jésus est venu annoncer aux hommes. Voilà ce que les apôtres ont enseigné. Mais je vais vous dire, à coup sûr. Les hommes de l'époque de Jésus et des apôtres, et encore plus ceux qui ont suivi dans les générations après, n'étaient pas prêts pour une telle universalité. Et il y a bien encore des endroits dans ce monde où on n'est pas prêt pour une telle universalité. Et même parfois dans les églises, on n'est pas encore prêt pour une telle universalité. Pourquoi ? Parce que le fait d'enseigner et surtout d'amener les chrétiens, je vais dire chrétiens de base, tous les chrétiens, à vivre ces offices, à l'époque de Jésus et encore aujourd'hui, c'est quelque chose peut-être de trop fort, de trop haut, de trop en avant par rapport aux mœurs. Comprenons, surtout à l'époque de Jésus, que dans ce monde, et pour longtemps encore, ces offices, prêtres, prophètes, princes administrateurs, étaient perçus comme des privilèges qui offraient des rentes de situation. Je parle d'argent. Et du coup, les mieux nés ou les plus fortunés se les réservaient. Parce que quand on était prêtre, il y avait de l'argent qui tombait. Pareil quand on était prophète, quelqu'un qui disait qu'il avait un don de prophétie à cette époque, quelque part il avait de l'influence, il avait du pouvoir, n'est-ce pas? Mais alors comment concevoir une église où tous les disciples de Christ, y compris les esclaves, parce que vous le savez, l'église de l'Antiquité, c'était une église en grande partie composée d'esclaves. Et comment entendre que des esclaves se prétendent prêtres, prophètes et princes administrateurs? Et malheureusement, très vite, ce qui devait être universel parmi les chrétiens redevint l'apanage de quelques-uns. Ainsi, la prêtrise fut confisquée. Et on sépara la prêtrise du reste de l'Église. Il y avait les prêtres et il y avait les paroissiens. Et même pour le haut clergé, les charges furent accaparées, monopolisées par les familles nobles ou aisées. Rappelez-vous qu'en France, pendant longtemps, les charges ecclésiales pouvaient être achetées. Ou alors elles étaient octroyées par les seigneurs locaux à leur clique. Et ça, ça a créé une profonde séparation entre le clergé et le peuple de l'Église. Et vous savez, notre pays en souffre encore. Il y a un tel anticléricalisme dans notre culture française que ça rend difficile la prédication de l'Évangile. Et tout ça, c'est lié à cette histoire. Plus de 1000 ans où l'Église a imposé sa vision des choses, une position d'accaparement. Rappelez-vous que nos ancêtres, pour ceux qui avaient des ancêtres en France à cette époque-là, payaient des impôts comme la gabelle à l'Église et la dîme. Ils étaient asservis. Et ça a produit un rejet dans le cœur des Français. Et mes frères et sœurs, pour vous qui n'avez peut-être pas ces racines familiales dans ce pays, qui le découvrez, voilà l'une des raisons de la dureté des cœurs en France. C'est que notre pays a été asservi pendant des siècles par l'Église, par le clergé. Et nos ancêtres, à un moment, en ont eu comme ça. Et le peuple n'avait plus confiance dans le clergé de l'Église. Alors il fallut attendre Luther, Martin Luther, et la réforme pour que la notion de sacerdoce universel soit remise à l'honneur. 1500 ans entre Jésus, les apôtres et Luther. 1500 ans avant qu'on reparle du projet de Dieu pour son Église, il a fait de nous des sacrificateurs. Et nous ne cessons alors de l'affirmer, nous, disciples de Jésus-Christ, nés de nouveau par la foi, baptisés en son nom, Dieu a fait de nous des sacrificateurs, des prêtres. Et nous n'avons besoin d'aucune médiation humaine pour nous approcher de Dieu. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous approcher de Dieu. Vous n'avez pas besoin de sacrement pour vous approcher de Dieu. Et nous n'avons qu'un seul médiateur, Jésus-Christ. Oh, il n'y a pas de hiérarchie dans la prêtrise. Il n'y a que deux niveaux en quelque sorte. Il y a le grand prêtre et il y a le reste, ce sont les prêtres. Alors je vous en prie, usez de hardiesse, d'assurance, de liberté, de confiance, approchez-vous de Dieu. 1500 ans pour retrouver la notion de sacerdoce universel. Depuis 500 ans de plus, nous arrivons au début du XXe siècle pour commencer à redécouvrir cette prophétisme universel. Depuis des siècles et des siècles, 20 siècles, la parole publique au nom du Seigneur avait été le monopole des évêques. C'était le magistère de l'Église. Malheureusement, la plupart des églises issues de la réforme ne sont guère allées parce que trop souvent, la parole, toute la parole était exclusivement réservée aux pasteurs. Mais il y a eu des mouvements historiques qui ont mis l'accent sur la vie de l'esprit pendant ces 20 siècles. Et notamment, ils ont exercé les charismes. Je peux penser aux montanistes dans l'Antiquité. Puis à la réforme, les anabaptistes, c'est eux qui baptisaient les adultes et ils vivaient la vie de l'esprit, ils vivaient les guérisons, ils vivaient les dons de l'esprit. Et je vous ai souvent parlé notamment du réveil des Cévennes au XVIIIe siècle. C'est l'un des plus grands réveils de Pentecôte, avant la Pentecôte, il a eu lieu dans le sud de la France. Et à ce moment-là, presque tout le sud de la France a failli basculer dans le protestantisme. Et c'était tellement extraordinaire ce réveil de Pentecôte qu'il y a des choses qui sont passées, qui ne sont même pas passées aujourd'hui. Et on dit que les enfants à la mamelle prophétisaient, parlaient en langue. Et ils annonçaient aux églises, ils étaient tout petits aussi, c'est pour ça qu'on appelle le réveil des enfants prophètes. Et notamment, ils annonçaient au sein des assemblées l'arrivée des dragons du roi. Les soldats du roi qui venaient pour les mettre en galère ou pour les exécuter, les patients touchés. C'était un grand, grand réveil. Et tous ces réveils de Pentecôte, avant la Pentecôte, ont été systématiquement persécutés par les églises en place. Alors, imaginez. Il y a eu un 19e siècle où il y a une soif qui a commencé à grandir. Partout en Angleterre, aux États-Unis et dans de nombreux pays, les gens se rassemblaient, les frères se rassemblaient avec le désir de vivre quelque chose de plus, le désir de vivre ce qu'ils appelaient la seconde expérience. Ils ne savaient pas trop ce que c'était. Certains pensaient que c'était une expérience de totale sanctification, d'autres de puissance. Enfin, ils tâtonnaient, mais il y avait vraiment cette attente. Et en Angleterre, il y avait des rassemblements comme les rassemblements de Keswick l'été qui rassemblaient plus de 10 000 personnes. On est au 19e siècle. Des gens qui, pendant des jours et des semaines, priaient, cherchaient Dieu. Et au début du 20e siècle, il y a eu le réveil du Pays de Galles. Et en 1906, à Los Angeles, ça a été le début du réveil de Pentecôte. Dans une chapelle méthodiste qui était reconvertie en entrepôt, dans une rue assez infâme de Los Angeles, Azusa Street, Dieu a utilisé, comme il est écrit dans la parole, les choses faibles, viles et folles du monde. Il a utilisé, dans une Amérique encore ségrégationniste, un prédicateur noir, borgne, fils d'esclave. Et ça, il n'y a que Dieu pour faire ça, n'est-ce pas? Et là, au milieu de cette assemblée qui réunissait des noirs, des blancs, des mexicains, tout ce qui n'avait rien à voir avec cette société de l'époque, l'esprit de Dieu est tombé sur eux. Le prophétisme universel. Et des hommes, des femmes, qui n'avaient jusque-là pas le droit à la parole. Un noir, comment un noir pouvait élever à cette époque, dans cette Amérique, la voix publiquement? Eh bien, poussé par le Saint-Esprit, par les apôtres de Dieu, il prophétisait. Et ce message s'est répandu. Et c'est vrai que le message de la Pentecôte et le réveil de la Pentecôte a surtout touché les bassins ouvriers, les bassins miniers et les pays pauvres. Pourquoi? Parce que là encore, il y a des gens qui sont sans voix. Des gens qui n'ont pas la parole dans leur monde. Parce que tout est accaparé par quelque autorité politique ou religieuse. Et Dieu a choisi des gens simples et il leur donne de parler en son nom. Et l'un des grands apports du culte pentecôtiste, c'est la possibilité pour le peuple d'élever sa voix dans des louanges, dans des prières publiques. Dans la plupart des églises, on ne prie pas publiquement, on n'élève pas sa voix, on ne loue pas le Seigneur à haute voix, et encore moins on prophétise. C'est le grand apport des églises de Pentecôte. Dieu restaurait au XXe siècle le prophétisme au sein de son Église. Il y a encore une dernière chose, un dernier office, qui est celui du ministère universel. Et je veux dire, c'est un point qui n'est pas encore acquis même dans beaucoup de nos églises. Parce que trop longtemps, nous avons véhiculé cette pensée, le pasteur, c'est le serviteur de Dieu. Et là encore, c'est tout l'héritage culturel et religieux. Quelque part, dans une certaine mesure, ça convient à tout le monde. Les chrétiens de dire, bon, bah, le pasteur, il fait tout, très bien. Et puis le pasteur te dit, bon, je vais tout faire, c'est bien aussi. Du coup, ça nous a conservé une approche très classique du service. Oui, c'est cette approche qui dit que finalement c'est le pasteur prêtre et les laïcs. Les laïcs à qui l'on confie quelques tâches d'intendance ou d'enseignement des enfants. Et d'ailleurs, c'est vraiment triste. Et il y a quelques années avec les pasteurs, on a dit mais il faut que ça change. Parce que il n'y a pas encore très longtemps, on parlait des pasteurs et des laïcs. Et ça, c'est une séparation dans le corps de Christ qui n'existe pas. C'est la religion qui nous a amené cette séparation. Mais il n'y a pas de laïcs dans le corps de Christ. Il n'y a que des prêtres. Il n'y a que des prophètes. Il n'y a que des administrateurs. Il n'y a pas de séparation au sein de... Le corps est un. Et c'est pour ça qu'on s'est promis de ne plus utiliser ce mot laïque. Il n'a rien à faire dans nos églises. Et en acceptant d'aller autre chose, un autre mot, et là, un jour, j'ai été étonné, mais je vois que ça change, c'est que il y avait encore cette idée parmi les pasteurs. Et là, je m'adresse, oui, c'est vrai, c'est les pasteurs qui disaient, le ministère, c'est le pastorat. Le reste, c'est le service. Et c'est un non-sens, parce qu'en grec, c'est le même mot. Quand il est parlé de la prédication, le service de la parole, c'est le diaconat. Quand il est parlé du service d'intendant, c'est le diaconat. Il n'y a pas de ministère et de service, non. Il n'y a que des serviteurs. Dieu ne fait pas cette distinction. Oui, nous servons d'après nos dons, d'après notre appel. Mais ça n'élève pas quelqu'un en lui-même au-dessus des autres. Oui, sa position peut l'amener peut-être à diriger le corps de Christ, à devoir gouverner, à devoir prendre des décisions, à enseigner. Ok, mais ça, c'est la fonction. Mais si on en reste à cette vision, d'un côté le serviteur, de l'autre côté le chrétien, on limite la mise en œuvre du corps de Christ. On limite souvent aux seules capacités du pasteur. J'ai été très content vendredi soir de cette soirée Festive Heart où je n'ai rien fait. Mais alors strictement rien fait. C'est-à-dire que je suis venu, j'étais là, j'étais heureux, je me baladais avec les uns, avec les autres, je parlais, je voyais des gens, je n'ai rien fait. Et à vrai dire, à part Andy et Timothée qui ont un peu aidé à organiser, tout a été organisé par vous. C'est une soirée d'évangélisation où chacun a pu s'exprimer d'après ses dons et plusieurs l'ont fait. Et je crois que et quand on refera, d'autres le feront encore. Et à travers leurs dons, ils ont pu témoigner du Seigneur, ils ont pu exprimer leur foi et ils ont servi Jésus. Et ça, elle me dit, mais c'est ça qu'on veut voir. C'est ça le corps de Christ à l'œuvre, que ce soit alors dans l'église, que ce soit là où Dieu vous place. Et je l'ai souvent dit, je le redis encore une fois, là où Dieu vous place dans votre travail, vous servez le royaume de Dieu. Vous servez le royaume de Dieu. Alors la vision de Jésus concernant l'église est celle d'un corps solidement assemblé et tout entier à l'œuvre, selon l'appel, les dons et la part de chacun. Nous sommes tous des serviteurs. Je me réjouis que là encore les choses évoluent parce que je crois que les frères et sœurs grandissent en stature, en maturité, et beaucoup comprennent qu'ils ne sont pas simplement appelés à remplir les chaises des églises, à financer des projets, mais à s'engager selon leur appel et leur don dans le service de Dieu. Et je suis très heureux que beaucoup se lèvent pour servir le Seigneur. Certains vont même partir à l'étranger, même en mission pour aller servir Dieu. D'autres vont se lancer dans des projets qu'ils ont à cœur. Nous sommes là pour les accompagner, pour les conseiller, mais c'est à vous de faire. Ce n'est pas simplement le pasteur. Alors j'ai fini en disant deux choses. Premièrement, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette privation et cette mainmise de la part de certains sur les offices? Je dis c'est parce que ça procure une grande situation. Et certains ont trouvé dans l'exercice de la prêtrise, ou du prophétisme, ou du ministère, une source de gain. Mais soit un salaire, c'est une chose, tout ouvrier mérite son salaire, mais quand je parle d'une source de gain, c'est comme aussi il est écrit presque de gain sordide. Mais il y a quelque chose que, je ne l'ai pas fait souvent, mais il y a quelque chose que je veux dénoncer, c'est encore la présence dans trop d'églises évangéliques même, quelle que soit leur dénomination, indépendante ou autre, bastion d'accaparement, où certains confisque encore ses offices pour leur gain. Et s'ils en font une source d'enrichissement, et le peuple n'est là que pour apporter l'offrande, la dîme, la double dîme, parce que le prophète, il est sur l'estrade, parce que le prêtre, il est sur l'estrade, parce que le serviteur, c'est celui qui est sur l'estrade avec ceux qui sont autour de lui. Et je dis, quand est-ce que l'Église va suffisamment devenir mature pour rentrer véritablement dans ce que Jésus a préparé pour elle? Nous l'avons fait rentrer, la prédication de l'Évangile fait rentrer les frères et sœurs dans le royaume de Dieu, mais c'est comme si on les laissait à l'entrée. Et on leur dit, tu restes là, tu ne bouges pas, tu ne vas pas plus loin. On leur promet la citoyenneté, mais on ne leur donne pas les moyens de l'exercer. On ne leur donne pas les droits, parce que les droits ont été accaparés. Alors j'ai dit, peuple du Seigneur, il est temps que nous revendiquions nos droits. Nous sommes des prêtres, nous sommes des prophètes, nous sommes des princes administrateurs. Non pas par nos capacités, nos forces, mais par la puissance du Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Il est temps que les bastions tombent. Il est temps que l'Église de Jésus-Christ vive pleinement ce que Dieu lui a donné il y a 20 siècles. Quand même, le Seigneur est si proche. Ce serait quand même tellement dommage que nous n'ayons pas encore saisi tout le projet de Dieu pour nos vies, pour nos églises. Deuxième chose, deuxième point de contact. Ne refermons pas le voile. Ne retournons pas en arrière pour un christianisme plus simple. Or, je vois cette tendance, cette tentation aujourd'hui de céder à un christianisme de complaisance et de facilité. Où on va dire qu'il ne faut pas que l'église soit compliquée. Parce que si c'est un peu compliqué, les gens ne vont pas rester. Ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas capables. Alors moi, je suis toujours étonné qu'au 1er siècle, il y ait des apôtres qui étaient capables d'écrire des livres comme l'Apocalypse, l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Romains, et que 20 siècles plus tard, les gens d'aujourd'hui, avec toute l'éducation qu'ils ont, ne sont pas capables de comprendre l'Épître aux Romains. Évidemment, nous attendons la révélation de l'évangile Saint-Twitter. L'évangile avec un tweet. Mais je ne plaisante pas, il y a des gens qui vivent ça. Leur vie chrétienne, c'est des tweets. J'ai reçu mon tweet quotidien, merci Seigneur. Je vais vous dire, je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont à cœur de faire ce genre de choses, à condition que ce soit des ministères d'encouragement et non pas de substitution. Que ce soit une petite cerise sur le gâteau. Pour venir nous bénir, et il y a des très belles choses qui se font. Mais si on pense qu'à travers un tweet ou un mail, on a notre relation avec Dieu. Alors aujourd'hui, on veut trouver un christianisme allégé, alors on veut rendre les choses simples. Parce qu'il faut les rendre accessibles à ceux du dehors, alors on va supprimer la louange verbale, la louange exprimée, on va supprimer les prières, on va même, il n'y aura plus de parler en langue, on ne va plus avoir de dons spirituels, un don en langue, ça jette, pas de don en langue, etc. etc. Et en faisant ça, nous sommes en train de revenir en arrière. Nous refermons le voile. Ce que nos pères ont mis 20 siècles à retrouver, en quelques années, nous allons le perdre. Parce que nous allons trouver nous voulons trouver des voies plus simples. Mais en faisant ça, ce permettons plus à l'Esprit finalement d'agir. Oui, Dieu a fait de nous des prêtres, des prophètes et des princes administrateurs pour son royaume. Jésus est si proche. Ça serait dommage qu'en revenant sur la terre, il nous voit encore en train de balbutier. Alors qu'il aimerait tellement trouver une église forte. Une église qui vit pleinement les promesses de la nouvelle. Puissions-nous ensemble partager ces choses encore. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu n'as pas laissé ton peuple sans voix, sans force, sans projet. Et nous rendons compte, mon Dieu, que tout ce que tu as voulu faire avec nous est tellement fort, tellement puissant, tellement révolutionnaire que les hommes, pour des questions de gain et ont voulu, Seigneur, cacher ces choses. Et pendant plus de 20 siècles, l'Église a été privée. Merci pour ceux qui se sont, qui se sont levés dans leur génération et qui ont rétabli les vérités. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons vraiment être ce royaume, ce sacerdoce royal. Nous voulons être ce peuple de prophètes. Nous voulons user de nos droits, Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser accaparer par certains ce que tu nous as donné. Et nous ne voulons pas laisser ces choses derrière nous en cherchant la simplicité. Seigneur, mon Dieu, non. Merci d'élever encore notre foi, d'ouvrir notre esprit. Oui, tu as fait de nous des prêtres pour que nous puissions librement nous approcher de toi et te servir. Tu as fait de nous des prophètes, des porte-paroles de ton cœur auprès des hommes. Et tu as fait de nous des princes administrateurs des affaires de ton royaume. Voilà l'Église de Jésus. Elle est glorieuse. Elle est puissante. Et c'est cette Église qui triomphe. Dans le nom de Jésus, Père, nous te prions. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, qui vous accompagne tout au long de cette semaine.